L'Académie Goncourt, elle existe depuis 1903. Le prix Goncourt est le plus ancien prix littéraire de France. C'est même quasiment le plus ancien du monde, le plus prestigieux, qui a été créé selon la volonté testamentaire d'un écrivain qui s'appelle Edmond Goncourt, qui, avec son frère Jules Goncourt, ont été deux acteurs importants de la vie littéraire française dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est à eux, si vous voulez, qu'on doit la naissance d'un mouvement qui s'appelle le naturalisme, dont l'écrivain le plus célèbre, le plus représentatif, est Émile Zola. Mais c'est vraiment les frères Goncourt qui ont lancé ce type de roman. Mais ils étaient aussi très connus pour tenir un journal à quatre mains. Ils écrivaient tous les deux ce journal sur la vie littéraire. Un journal assez, parfois assez caustique, assez vachard. Et puis, ils étaient aussi des animateurs de cette vie littéraire parce qu'ils se plaisaient une fois par semaine à recevoir des artistes, des écrivains, des poètes, des peintres, dans un salon. Vous savez qu'il y avait cette mode très française des salons littéraires qui a commencé à exister au XVIIIe siècle, qui s'est propagée au XIXe, un petit peu au XXe, mais qui, depuis quelques décennies, n'existe plus vraiment. Mais enfin, c'était l'occasion pour des écrivains, des artistes, de se réunir une fois par semaine chez un mécène, chez un autre écrivain, chez une dame de la haute bourgeoisie ou de la noblesse, et de disserter un peu, de parler un petit peu de littérature et d'art. Donc il tenait un salon très très important. Jules Goncourt est mort plus tôt que son frère, et Edmond, donc, à sa mort, a laissé un testament dans lequel il souhaitait, avec une somme dédiée, que soit créée une académie de 10 membres, qui porteraient leur nom, Académie Goncourt, et qui chaque année donc remettraient un prix, qui s'appellerait le prix Goncourt, à un ouvrage en prose, et de préférence entre tous les genres, un roman. Donc le temps que le testament soit exécuté, que l'académie soit mise en place, le premier prix Goncourt a été décerné en 1903. Donc vous voyez, ça fait plus de 120 ans maintenant. L'académie existe toujours, elle est toujours constituée de 10 membres, elle s'est un peu heureusement féminisée, nous sommes 4 femmes et 6 hommes. Nous sommes entièrement bénévoles et nous lisons toute l'année le plus de livres possible, notamment de façon intense dans une période qui va bientôt commencer entre le mois de mai et le tout début septembre, où les éditeurs nous envoient en avance, bien avant leur parution, les ouvrages qui vont être mis en vente lors de la fameuse rentrée littéraire, c'est-à-dire, vous le savez sans doute, en France, on a ce phénomène entre la mi-août et le début septembre. On a à peu près 250 romans français qui paraissent. Donc une masse très importante, presque un engorgement des librairies. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'éditeurs et d'auteurs espèrent justement recueillir un des grands prix d'automne, comme on les appelle. Le plus célèbre, le plus prestigieux étant le Goncourt, mais il y en a d'autres comme le prix Renaudot. Une émanation des Goncourt, le prix Goncourt des lycéens, on en a parlé, mais il y a aussi le prix Fémina, le prix Médicis, le prix Interallié, le Grand Prix de l'Académie française, le prix Décembre et d'autres. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'embouteillage de livres. Alors nous recevons donc tous les livres, les éditeurs ne font pas le tri et nous non plus. Nous lisons le plus possible d'ouvrages entre ce mois de mai et notre première réunion de décembre, durant laquelle on va mettre au point notre liste, la liste Goncourt. Durant tout l'été, durant tout ce moment d'écriture, on s'envoie beaucoup de messages, de mails, de SMS pour nous alerter les uns les autres sur un ouvrage qui nous paraît intéressant, à ne pas manquer, à surtout lire. Mais l'avantage et l'intérêt, si vous voulez, c'est que nous avons des personnalités et des trajets et des sensibilités très différentes. Donc nous ne sommes pas forcément d'accord sur les mêmes livres. Et la première liste, elle est le fruit d'un vote démocratique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous arrive à la première réunion de septembre avec ses 10 titres favoris. Chacun les énonce, on met un point pour chaque titre qui est cité, on fait les additions et on retient les livres qui ont obtenu le plus de points. Voilà grosso modo comment ça se passe. Avoir le prix Goncourt assure aux livres primés des ventes considérables en France. Les petites années, on va dire qu'on est quand même autour de 250 000 exemplaires vendus et ça peut aller jusqu'à des records comme il y a quelques années. Le précédent record a été détenu par un prix Goncourt de 1984, qui est l'amant de Marguerite Duras, qui s'était vendu à peu près 1 million d'exemplaires. Mais il y a quelques années, l'anomalie d'Hervé Le Tellier s'est vendue à plus d'1 100 000 exemplaires. Donc vous voyez, ça donne des chiffres très importants, qui changent évidemment le destin et la vie d'un livre. Sur le reste de l'année, on remet aussi d'autres prix, notamment ce qu'on appelle un peu nos prix de printemps, on est en plein dedans. Le prix Goncourt du premier roman, le prix Goncourt de la nouvelle, le prix Goncourt de la poésie qui lui consacre non pas un recueil mais une œuvre poétique entière, puis le prix Goncourt de la biographie. J'ai parlé tout à l'heure du prix Goncourt des lycéens, donc qui existe depuis plus de près 35 ans maintenant, qui associe donc à peu près 2000 lycéennes, lycéens en France et dans quelques pays étrangers qui sont dans les lycées français, et qui, par l'intermédiaire des professeurs, donc, qui animent dans leur classe cette compétition, proposent la lecture de la première liste. Donc les lycéennes et les lycéens sont invités à lire la quinzaine de titres et à choisir leurs favoris un petit peu après nous, 3 semaines après l'annonce du prix Goncourt. Ce qui est intéressant dans ce travail, parce que c'est vraiment un travail, et encore une fois je le dis bénévole, hein, on n'est pas du tout salarié, on donne du temps de vie, du temps de lecture, du temps privé et du temps de création, puisque ce qu'on fait pour les autres, on ne le fait pas pour nous-mêmes. La rétribution, si vous voulez, c'est d'être un peu aux avant-postes de la littérature et de voir un peu ce qu'elle propose. Avec un peu de recul, on voit des tendances se dessiner. On a toujours des romans qu'on pourrait qualifier de réalistes, qui écrits sur un mode presque balzacien, avec un modèle comme ça, hérité d'un 19e siècle, où le roman essayait de mimer le réel et de faire croire au lecteur que les personnages qui évoluaient dans le roman étaient très proches d'êtres de chair et de sang, avec donc une illusion réaliste. Donc ça existe toujours. Des romans qu'on pourrait qualifier de classiques finalement, hein, parce que quand même, qui ne sont pas innovants dans la forme. On a depuis quand même plusieurs décennies maintenant tout ce qui a trait à ce qu'on va appeler l'autofiction, c'est-à-dire où le matériau qui est travaillé par l'écrivaine ou l'écrivain est un matériau extrêmement personnel, extrêmement autobiographique, mais qui, dans le biais de la médiation romanesque, peut connaître des distorsions. Donc on va parler d'autofiction, c'est-à-dire qu'on se prend soi-même comme objet de fiction, hein. Donc ça, c'est un mouvement qui est toujours quand même assez présent. On a beaucoup de textes qui reviennent sur des grands traumatismes historiques. Hein, chaque année, il y a encore des livres, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Holocauste, des livres sur les guerres de décolonisation, même s'ils sont moins importants en nombre, mais sur la guerre en Indochine, la guerre en Algérie. Donc les grands mouvements et moments historiques et traumatisants du XXe siècle. On a depuis quelques années une tendance aussi qu'est-ce que j'appellerais les éco-romans, où les préoccupations écologiques deviennent vraiment des matières centrales de certains textes romanesques. Ça, c'est assez nouveau, quand même, dans la littérature française. Ça existait dans d'autres littératures, américaines notamment, mais ça commence à venir de façon assez importante en France. Il y a aussi ce que j'appelle les bio-romans, c'est-à-dire que des auteurs prennent une figure connue, hein, un être réel qui a existé, et créent autour de lui un roman. Donc ce ne sont pas à proprement parler des biographies, mais ce sont des réinspections d'une vie d'une femme ou d'un homme ayant existé, un savant, un scientifique, un peintre, un romancier, un général, enfin, voilà, un inventeur, enfin bon, bref. Et la romancière ou le romancier s'invite dans le matériau biographique, mais en le tirant quand même du côté de la fiction. Et ça, c'est chaque année, il y a des romans de ce type-là. Il y a des sujets aussi qui sont devenus extrêmement traités dans le roman contemporain. Je pense à des sujets qui n'étaient pas traités pendant des années, ou que la littérature n'avait pas pris en charge, mais qu'ils sont maintenant de façon assez constante. Tout ce qui a trait aux violences sexuelles, hein, à l'inceste, la pédophilie, ça depuis on va dire 10 ans, on voit quand même beaucoup de textes de qualité inégale, hein, d'ailleurs, hein, mais qui ont un peu brisé les tabous et qui proposent de façon littéraire l'inspection de ces thématiques. Voilà, donc vous voyez, on a ce type de tendance, mais ce serait extrêmement réducteur de dire, bon, voilà, on est la littérature française, c'est tel type de texte. Et puis, j'ajouterais aussi que la littérature française, c'est aussi la littérature francophone. C'est-à-dire que le français, c'est une langue qui est évidemment parlée et écrite en France, mais pas seulement. La francophonie regroupe quand même tout un ensemble de pays de culture, ce qui fait que dans les publications que nous avons à considérer, il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas français, mais qui écrivent en français. Alors, soit des auteurs, par exemple, issus des pays du Maghreb, soit des pays francophones d'Afrique noire, soit des Caraïbes, soit de Madagascar, de Maurice, etc. Donc vous avez comme ça des romans francophones, mais dans lesquels la langue française sonne différemment. Et il est notable de constater que ces dernières années, par exemple, nous avons couronné à deux reprises des auteurs qui ne sont pas à l'origine français.
Pensez-vous que le prix Goncourt a le même impact sur un écrivain maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans ?
Je pense qu'il en a plus maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il avait déjà, il y a 20 ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, un impact très important. Mais aujourd'hui, il est encore plus important pour une raison simple, c'est que le marché du livre s'est complètement modifié. Les ventes des livres, et notamment de la littérature, ce qu'on appelle la littérature, se sont vraiment, on pourrait dire, effondrées. C'est-à-dire que, je vous donne juste une indication, moi j'ai commencé à publier il y a 26 ou 27 ans, je ne sais plus. À l'époque, on parlait de best-seller pour un livre qui se vendait au moins à 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, quand un livre se vend à 10 000 exemplaires en littérature, on parle de best-seller. Alors, si vous regardez le marché global, il est presque stable. Il s'érode un peu d'année en année, il s'effrite un peu, mais quand même, c'est stable. Mais si vous regardez à l'intérieur de ce marché, ce qui se vend comme livre, vous allez avoir dans les têtes des ventes, ça va être quoi ? Ça va être les mangas, les bandes dessinées, ce qu'on appelle, excusez-moi d'utiliser le terme anglais, mais les feel-good novels, sorte de romans légers, ce qu'on appelait avant les romans de gare ou les romans d'aéroport, enfin voilà, qui n'ont pas vraiment d'enjeux littéraires, qui racontent des histoires qui se finissent bien, qui sont heureuses, etc. Vous avez aussi, et ça vous concerne en premier chef, parce que c'est surtout votre lectorat qui est concerné, avec un immense succès pour ces livres-là depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle les romances, New Romance, Dark Romance, etc. Ça, c'est un secteur qui n'existait pas il y a plus de 10 ans et qui commence à avoir des ventes considérables. Vous avez tous ces titres-là qui font vraiment des grosses ventes. Mais si vous prenez la littérature, comment on pourrait la définir ? On pourrait la définir comme une sorte d'inspection à la fois soit de l'intime, soit de l'humanité, soit de nos sociétés, faite avec le langage dans tout ce qu'il a de plus précis, de plus complexe, de plus poétique aussi. C'est l'alliance de thématiques et aussi d'un travail sur la langue, la littérature. Ces livres-là voient leur public vraiment diminuer. D'où l'importance plus grande aujourd'hui pour un auteur d'un prix comme le prix Goncourt, parce que comme je vous le disais, ça assure des ventes considérables. Il y a 30 ans, c'était déjà un phénomène extrêmement heureux, mais il y avait aussi des livres qui n'avaient pas le prix Goncourt qui se vendaient très bien. Aujourd'hui, son pouvoir de prescription est devenu encore plus important. Quand j'ai appris à lire et à écrire, j'ai découvert un continent qui me permettait de voyager seul dans les livres. Avant, on me les lisait. À partir du moment où j'ai su lire, je les ai lus seul. Et puis j'ai eu très vite envie de raconter des histoires. Donc j'ai commencé à en raconter par écrit dès l'enfance. Ça ne s'est jamais arrêté. Ce qui a changé un peu à un moment, si vous voulez, c'est que c'est devenu moins mauvais, quoi. Quand c'est devenu moins mauvais, je me suis dit que je pouvais peut-être les montrer à d'autres. Ça a été le début des publications. Entre le moment où j'ai commencé à écrire, je sais pas, à 8, 9 ans, 10 ans, et le moment où j'ai publié, il s'est passé presque 30 ans, puisque mon premier livre, je l'ai publié à 37 ans. Donc il y a eu beaucoup d'écritures solitaires et invisibles et de mauvaise qualité avant de venir à des textes qui me paraissaient à peu près dignes d'être montrés. Voilà.
C'était lequel vous que vous avez préféré ?
C'est difficile de répondre à votre question parce que, comme vous les avez lus, vous avez vu que c'est des livres qui sont relativement incomparables. Même si, pour deux d'entre eux, je pense à celui de Gaël Faye et à celui de Kamel Daoud, on a deux livres qui reviennent sur une tragédie nationale, un génocide, pour le livre de Gaël Faye, une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, pour le livre de Kamel Daoud. Donc, il y a un parallèle entre les deux, quand même. Mais sinon... Le livre de Sandrine Collette vous propose une sorte de récit historique un peu fabuleux dont on ne sait pas trop à quelle époque ni où exactement il se situe, donc dans un imaginaire parfois presque un peu fantastique comme ça. Et puis on a à l'opposé un livre sur l'intime, dans cette veine un petit peu dont je parlais tout à l'heure d'autofiction ou d'inspection un peu biographique d'une existence, en l'occurrence donc le livre d'Hélène Gaudy sur son père. Comment recomposer un portrait du père dans une forme d'archipel, pour reprendre son titre. C'est assez compliqué de répondre à ça. Il y a des livres qui se lisent plus aisément que d'autres. Si je reprends les deux livres qui ont des parallèles ou des proximités, comme le Jacques Aranda ou Horry, c'est beaucoup plus facile de lire Jacques Aranda que Horry. Jacques Aranda, c'est quelque chose qui est fluide, qui est d'une grande limpidité, qui est un texte qui n'est pas... complexe dans le sens où on n'est pas arrêté à un moment par une langue, par un effort de lecture, par... même si sa matière est tragique et sombre, l'auteur arrive à créer aussi des scènes drôles. À l'opposé, Houri de Kamel Daoud, c'est un roman qui peut paraître extrêmement oppressant, cyclique aussi, plus difficile à lire, je pense. Voilà, un narrateur qui revient comme ça sans cesse sur l'histoire du personnage, etc. Personnellement, j'aurais du mal à vous répondre, en fait. Il n'y avait pas de préféré comme ça qui se dessinait de façon... Il y a des années, oui, dès le début, moi, il y a un livre que j'ai envie de pousser jusqu'au bout, de soutenir. Là, j'étais plutôt dans une forme d'ouverture et... à observer un petit peu avec mes camarades ce qui allait pouvoir se dessiner. Ça a été un choix assez simple, parce qu'en fait, cette année, c'était au premier tour. Hein. Ce qui n'arrive pas tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'au premier tour, Kamel Daoud a obtenu 6 voix sur 10, donc ça y est, c'était fini. Quoi. Alors qu'à 2 reprises dans les 5 dernières années, on est allé jusqu'au 13e tour, parce qu'on était dans une forme d'égalité parfaite, 5 voix, 5 voix. On a un article de notre règlement qui fait que si au 13e tour, on arrive encore à égalité, au 14e tour, le président ou la présidente doit utiliser obligatoirement sa double voix pour départager. Pour couronner, il y a 2 ans, Jean-Baptiste Andréa, pour veiller sur elle. Et cette année, vous voyez, ça s'est décidé très vite. Non pas qu'il y avait une unanimité, puisque ce n'était pas 10 voix, vous voyez, c'était 6 voix. Hein. 6 voix pour Kamel Daoud, il y avait eu... 1 voix pour Sandrine Collette, 1 voix pour Jacques Aranda et 2 voix pour Hélène Goudy, de mémoire. Mais pour ma part, le choix, ce n'était pas évident cette année. Par rapport à d'autres années, où dès le début, moi j'ai un livre que j'ai envie de soutenir jusqu'au bout. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, effectivement. À l'inverse, vous connaissez peut-être notre aînée prestigieuse qui est l'Académie française, hein, qui a été créée sur la volonté de Richelieu. Donc on remonte... la première moitié du XVIIe siècle, l'Académie française comporte 40 membres qui sont élus à des fauteuils. Et lorsqu'un fauteuil se libère, par le décès d'un des membres qu'on appelle immortel, puisqu'en fait on reste académicien jusqu'à la fin de sa vie, lorsqu'un des fauteuils donc est libre, et lorsque l'Académie française fait appel à candidature, chacune, chacun qui a publié en langue française, peut candidater. À partir du moment où vous avez publié quelques ouvrages, vous pouvez très bien écrire une lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie française et vous portez candidat au fauteuil numéro, ils sont numérotés, 35, faites votre lettre et vous faites vos visites aussi aux autres académiciens pour essayer de les convaincre de voter pour vous et de vous intégrer dans cette prestigieuse compagnie. Il y a une action volontaire de la part des femmes et des hommes qui veulent se porter candidats à l'Académie française, ce qui n'est pas du tout notre cas à nous. Quand nous, on ne parle pas de fauteuil, je vous ai dit qu'on se réunissait dans un restaurant qui s'appelle le restaurant de Rouen, donc on parle de couvert. On est élu au couvert numéro 2, numéro 3, et moi je suis élu au couvert numéro 9. Et sur les couverts que nous utilisons sont gravés notre nom et les noms de celles et ceux qui nous ont précédés. Vous voyez ? Quand un couvert se libère, soit parce qu'un membre vient de décéder, soit parce qu'il a décidé d'arrêter pour des raisons personnelles ou des raisons de fatigue ou de maladie, on n'attend pas des candidatures. C'est nous qui décidons qui nous allons appeler. Donc on se réunit, on évoque des noms, on se met d'accord sur un nom, on contacte très discrètement la personne pour savoir si elle est d'accord pour nous rejoindre. Il se trouve que maintenant, les gens savent qu'il y a beaucoup de travail. Et que c'est bénévole, que ça prend beaucoup de temps. Jadis, dans l'histoire de l'Académie, il y a eu des moments où vraiment, franchement, les gens ne faisaient pas très sérieusement leur travail. Donc, beaucoup acceptaient d'y venir et ne faisaient pas grand-chose. Maintenant, ça a un peu changé. Donc, c'est parfois plus complexe d'accueillir quelqu'un. D'autant plus que, même s'il y a des milliers d'auteurs qui rêveraient d'intégrer l'Académie Goncourt, il n'y en a pas beaucoup qui correspondent à nos critères. Parce qu'en fait, nos critères, ils sont à la fois simples et compliqués. Il faut que la personne soit connue et reconnue, hein, que ce soit une écrivaine ou un écrivain qui a une certaine notoriété quand même. Il faut qu'elle soit indépendante financièrement, ça c'est très important, qu'elle ait suffisamment de liberté financière pour ne pas être une proie de corruption, hein, qu'elle ne puisse pas être corrompue par certains éditeurs qui essaieraient d'acheter sa voix. Et puis aussi, je le disais, être capable d'une grande générosité, consacrer du temps à ce travail-là sans être rémunéré. Et sans en recevoir aucun prestige d'ailleurs, hein, parce que généralement les seules gratifications qu'on a, c'est d'être insulté par la presse ou par d'autres en disant que nos choix sont nuls ou enfin, on n'est pas d'accord avec nous. Voilà, donc y a les bénéfices pour quelqu'un qui est à l'Académie sont vraiment extrêmement réduits. Hein. Voilà comment nous procédons et moi pour ma part, on m'avait contacté avant que je sois élu en me demandant si ça m'intéressait et puis à l'époque... J'avais eu déjà beaucoup de chance avec des livres, en ayant beaucoup de succès, des traductions, etc. Et comme j'étais un gros lecteur, j'adorais lire, je me suis dit, il est temps de redonner un petit peu ce que j'ai eu, donc j'accepte avec plaisir.
Est-ce que le regard que vous posez sur la littérature, il a changé depuis votre participation au concours ?
Oui, un peu, parce que comme je suis obligé de lire beaucoup, il y a beaucoup de livres que je ne lirais pas si je n'étais pas au prix Goncourt. Je vous ai dit tout à l'heure que les ventes en littérature baissaient, donc ce qui pose un vrai problème économique à beaucoup de maisons d'édition, puisque les rentrées d'argent sont moins importantes. Donc il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont tendance à compenser cette baisse des ventes par une multiplication des objets à vendre. Donc ils publient plus de livres pour essayer d'équilibrer ça. Et quand même très souvent, chaque année, en lisant les livres, je me dis, mais pourquoi c'est publié, quoi ? Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez ? Alors, on est libre d'écrire. Si vous voulez écrire, vous êtes tout à fait libre. Vous n'avez à demander autorisation à personne, quoi. C'est la liberté de chacune et de chacun d'écrire et de lire. Mais une fois qu'on a écrit un texte, il faut avoir quand même soi-même une forme d'exigence en se disant, on le relit, puis on voit si c'est mauvais ou si c'est bon quand même. Il faut avoir autour de soi aussi des gens qui sont capables de vous dire ça. Je vous prends un exemple, moi. J'ai beau avoir publié aujourd'hui, je ne sais pas, plus d'une quarantaine de livres. J'écris des livres, je relis, je me dis, tiens, ouais, je suis plutôt content. Et je le donne à la première personne, et à la seule personne en qui j'ai confiance, et à ma femme. Je lui donne à lire, et des fois, elle me dit, c'est de la merde, mais ça à la poubelle. Et je mets à la poubelle, voilà. Et après, quand elle me dit, non, c'est bien, etc., je donne à mon éditeur. Très souvent, quand je dis à ma femme, c'est dommage que tu ne sois pas marié avec un tel ou une telle, parce que tu pourrais dire que c'est de la merde. Il y a une forme comme ça de laisser aller de textes qui sont publiés, qui ont vraiment... c'est de l'eau tiède, quoi. Ça n'a... Quel intérêt de les publier ? Le marché est ainsi fait que... Alors, il y a aussi des gens qui sont publiés parce que les éditeurs espèrent que le livre va se vendre, non pas pour ses qualités littéraires, mais parce que l'auteur est une journaliste ou une femme ou un jeune homme qui est dans une émission de télévision, etc. Un homme politique, ou la femme d'un homme politique, ou la fille d'un homme politique. Vous voyez ? Et tout ça fait que... On a des livres qui n'ont pas grand intérêt, mais qui nous encombrent un petit peu quand même. Pas nous ouvrir à des genres littéraires qu'on qualifiait jadis de mineurs, mais ce qui, pas moi, mais en général, qui n'a pas été mon cas, parce que moi je me suis nourri un petit peu de toutes les formes de littérature. Très franchement, on est ouvert à tout. Simplement, ce que je constate dans les genres que vous avez cités, c'est que, semble-t-il, les éditeurs et les auteurs de fantasy ou de SF n'osent pas nous envoyer des livres. Vous voyez ? J'en reçois très peu, ça. Très très peu. Comme si dans leur esprit, c'était pas possible, quoi. Ils ne pouvaient pas être susceptibles de concourir ou de gagner le concours. Et c'est dommage. Mais on a couronné, par exemple, ces dernières années, des auteurs qui venaient du polar. Vraiment, qui avaient été des auteurs de romans noirs, de romans policiers, qui ont un peu changé peut-être leur approche littéraire. Mais on est très ouvert à ça. Simplement, ce n'est pas de notre fait. C'est plus, comme je me répète, mais j'ai l'impression que ces éditeurs-là n'osent pas nous envoyer leur production. Comme si finalement la SF ou la fantasy ne pouvait pas être couronnée par prix Goncourt. Alors que, pour avoir été moi-même un grand lecteur de ces littératures, il y a quand même des écrivains majeurs qui sont devenus des classiques. Hein. Vous prenez juste la SF, vous prenez quelqu'un comme Philip K. Dick, un américain qui est quand même un des plus grands écrivains du XXe siècle. Donc il n'y aurait aucun ostracisme, aucun rejet par rapport à des textes de qualité, même si ce sont des littératures qu'on appelle littérature de genre. D'ailleurs, le premier prix Goncourt, qui a été décerné en 1903 à John Antoine Nau, N-A-U, c'était un roman d'anticipation. Donc même au début, quand même, le prix Goncourt s'est ouvert à des littératures qui étaient un petit peu marginales.
Vous avez été invité à plusieurs reprises à l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, dont d'ailleurs Anne, notre animatrice radio de l'école, est une grande fan. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce programme et vous donne envie d'y participer ?
Alors c'est Laurent Ruquier m'a invité il y a 2 ans maintenant à devenir sociétaire, on dit sociétaire des Grosses Têtes, que j'ai accepté avec grand plaisir parce que il y a toute une part de moi-même, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec la littérature, mais qui a plus à voir avec l'humour et avec plaisir de plaisanter, de raconter des bêtises et de rire, quoi. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai rejoint la bande et j'essaye d'y aller une fois tous les 15 jours en moyenne, quoi, parce que j'arrive pas à participer davantage. Donc je suis souvent en déplacement. Mais pour moi, c'est toujours un grand moment de plaisir. Alors, l'émission, elle est quotidienne. Elle passe en fin d'après-midi, mais on l'enregistre en fait le matin. Donc, de 10h30 à 13h à peu près. Pendant 2h30, comme ça, on ne raconte que des bêtises, quoi. J'adore ça. Ça me change, en fait, des moments trop sérieux. La vie est quand même une aventure étrange, complexe, magnifique, éreintante et angoissante aussi. On vit dans un moment qui est quand même stupéfiant, aujourd'hui, mondialement stupéfiant, qui génère beaucoup d'angoisse chez nos contemporains, on s'en rend compte, quelles que soient les générations, quand même. On se demande comment va le monde, ou comment plutôt il ne va pas. D'avoir des moments comme ça où on peut se lâcher complètement et plaisanter surtout, c'est des moments qui sont comme des soupapes qui font du bien.
Bon, on a pu un petit peu parcourir voilà, par le biais de quelques extraits, petite facette de votre univers qui est, on va dire, un regard au couteau, enfin, un regard très acerbé sur l'humain.
Oui, oui, mais c'est un petit peu la fonction de, pour moi, de la littérature. C'est-à-dire que c'est, je reprends votre expression de couteau. Moi, j'utilise souvent comme métaphore le fait que pour moi, écrire, c'est pratiquer une sorte d'autopsie du vivant. Ouais. Un écrivain, c'est quelqu'un qui va ouvrir un corps, soit un corps intime, soit un corps social, et qui essaye de voir ce qui provoque des pathologies, ou ce qui provoque même l'arrêt du cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il que ça ne fonctionne pas? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, la littérature, elle est par essence quand même assez tragique, hein, même si parfois elle peut être, non pas comique, mais enfin ironique, acerbe, on peut rire de temps en temps dans les textes littéraires, c'est assez rare quand même, mais alors on va toujours citer le Candide de Voltaire, par exemple, vous voyez, des contes philosophiques qui manient l'absurde, qui manient l'ironie, l'humour, mais on rit quand même assez peu dans la littérature. D'ailleurs, quelque part, c'est normal. Enfin, moi, ce qui me plaît aussi, c'est de jouer aussi avec l'absurde, parfois. C'est-à-dire qu'il y a des textes que j'ai écrits qui sont vraiment des textes à lire avec des grands éclats de rire, qui sont des textes pleins d'humour noir, en fait. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Là, je publie un petit livre au mois de mai, là, que j'ai écrit dans l'urgence depuis le deuxième mandat de Trump, parce que le monde est devenu tellement fou, je me suis dit, tiens, la réalité dépasse la fiction, que peut faire la fiction maintenant ? Donc ça m'a fait écrire un petit roman dystopique où les personnages principaux sont Elon Musk, sont Donald Trump, sont Poutine. Et c'est une espèce de farce qui exagère un petit peu la réalité, mais dans un moment où la réalité devient une exagération d'elle-même, quoi. Donc là, la littérature m'a paru importante pour essayer de faire rire les gens, de montrer combien on en est venu à des situations complètement absurdes. Et que l'humour et le rire sont des armes de résistance. Un moment où, comme je le disais, beaucoup d'entre nous sont plutôt dans l'abattement. Je crois qu'il faut reprendre un peu confiance et force en se moquant de ce qui ne peut être que moqué.
Hein. Vous publiez encore des livres aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez les envoyer au choix Goncourt ou non? Je fais partie de nous, des membres.
Ah bah non. Quand on fait partie du prix Goncourt, on ne peut pas candidater soi-même.
Ben, oui.
Quand on est ancien membre ou anciennement, on ne peut pas postuler au prix Goncourt.